Nous sommes en compagnie de Laurence Rossignol. Vous l'avez présentée. Elle est ancienne ministre du droit des femmes et sénatrice de l'Oise. Catherine, et puisque nous souhaitons parler dans ces matins, puisque nous allons évoquer la condition féminine aujourd'hui et la question donc des luttes qui ont débuté cette année avec le hashtag Balance ton port et avec les développements qu'on sait. Laurence Rossignol, je voulais vous faire écouter un extrait d'un documentaire diffusé sur YouTube et consacré au cyberharcèlement. Ce documentaire, il est intitulé « Elles prennent la parole » et les youtubeuses françaises témoignent du harcèlement dont elles sont victimes, notamment en lisant les insultes, les menaces de mort, les appels au viol ou insultes qu'elles ont reçues. Voici un extrait du témoignage de Solange Te Parle.
Ce qu'on me dit le plus souvent, je sais pas, c'est que je suis chiante, c'est que soit que je suis moche, soit que c'est à cause de ma belle gueule. Donc tu vois qu'il y a les deux, quoi. Soit que, enfin évidemment les trucs sexistes, de salope, de pute, de, que je mérite, que je dois sucer, qu'on me baisse, qu'on me sodomise, on va te faire enculer, que t'es bobo, que t'es privilégié, que c'est rarement construit, hein. C'est surtout des insultes.
Montre ta chatte, salope. Tu es une merde pensante, intelligente, mais merde tu es.
Bah tu sais quoi, t'as qu'à les pendre, ça ferait une connasse de moins sur terre.
Votre réaction, Laurence Rossignol?
Malheureusement, je connais ça parce que quand j'étais ministre, d'abord, j'ai été un an ministre. Donc, j'ai pas pu faire tout ce que j'aurais voulu faire, mais j'ai commencé à travailler avec les youtubeuses. Marion Seclin, il y a toute une équipe de filles qui sont absolument formidables et qui interviennent sur des sujets divers, pas forcément sur des sujets féministes. Et ce qui est frappant dans le cyberharcèlement, devant la haine qui se déverse à l'encontre de ces jeunes femmes, c'est qu'en fait, c'est pas simplement le sujet dont elles parlent, c'est qu'une scientifique qui va faire de la vulgarisation scientifique, par exemple sur YouTube, va récolter, essuyer les mêmes insultes sexistes. En fait, c'est une espèce d'interdiction aux femmes d'être présentes sur les réseaux sociaux et qui l'aurait lancé par ces insultes, ces menaces de mort. Et je voudrais préciser aussi que les menaces, elles ne restent pas cantonnées dans le monde virtuel des réseaux sociaux. Bon, certaines d'entre elles ont été harcelées jusque chez elles, c'est-à-dire qu'ils font circuler les adresses. On passe de la menace virtuelle à la menace physique parce que derrière ces attaques contre ces jeunes femmes, il y a des groupes. Voilà, qui agissent collectivement avec des cibles et qui lancent des attaques sur des jeunes femmes. On a commencé à travailler, on avait publié un guide parce que tout le code pénal qui sanctionne les insultes, les injures, s'applique aussi sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, le numérique est un espace public. Les gens croient que comme ils sont chez eux devant leur télévision, devant leur écran, ils sont tout seuls et c'est du privé. Non, c'est un espace public et tout le code pénal qui s'applique dans l'espace public s'applique aussi dans les réseaux sociaux.
Le politique a-t-il tardé à réagir, Laurence Rossignol ?
Je crois pas que le politique ait tardé à réagir. Je pense que c'est un phénomène relativement nouveau quand même, dont on a pris conscience progressivement. Je pense que le politique aussi, parce que le politique est pas très présent sur les réseaux sociaux, a eu un temps de retard pour identifier ce qui se passait. Le temps de l'information, on n'est pas dedans, nous, voilà, on n'est pas youtubeuse. Et le temps que ça remonte jusqu'à nous, il y a un petit décalage. La question, peut-être on va en parler ce matin plus largement, c'est pas est-ce qu'on réagit, c'est qu'est-ce qu'on fait, quels sont les outils dont on se donne. Et là, on rentre dans un domaine qui est compliqué, qui est celui de la loi et de la sanction.
Et justement, et à partir de là, alors sur un domaine autre mais parfaitement connexe, hier, le président Emmanuel Macron a dit au dîner du CRIF qu'il souhaitait légiférer contre le harcèlement, cette fois-ci antisémite, mais le sexisme, le racisme, l'antisémitisme peuvent être considérés comme une même démarche, et en tout cas est produit par les mêmes individus qu'on appelle des trolls, quelle que soit leur cible finalement. Qu'est-ce que vous pensez possible de faire? Parce que il y a aussi ce que l'on veut faire et ce qui est possible.
Alors, d'abord, j'ai observé principalement le harcèlement sexiste dans l'espace numérique. Et je sais qu'il existe à côté du antisémitisme, du racisme, de l'apologie du terrorisme. Ce que j'ai observé, c'est que les hébergeurs réagissent plus vite pour retirer des contenus, par exemple, qui sont de l'apologie du terrorisme, que pour retirer des contenus sexistes. Il y a une plus grande complaisance à l'égard des contenus sexistes. Il y a un antisémitisme aussi extrêmement fort sur par des groupes. D'ailleurs, ce qui est assez curieux, c'est que parfois on trouve les mêmes à l'origine.
Oui, souvent ça participe d'une même démarche.
Voilà. Et je rajouterais l'homophobie. En plus, l'homophobe. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, le président de la République a annoncé une loi à venir sur le harcèlement sexuel, avec une contravention pour le harcèlement de rue. C'est-à-dire que un policier constatant un harcèlement de rue pourra dresser une contravention à l'encontre de l'auteur. Je suis en train de réfléchir et de travailler en ce moment, puisque cette loi va venir, ce projet de loi viendra à un moment donné en discussion au Parlement, de la manière dont nous pourrions étendre cette contravention au harcèlement sur les réseaux sociaux. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est la rue. C'est la rue. Donc, comment on l'applique ? Et là, c'est assez facile de dresser des contraventions. C'est presque plus facile que de les dresser dans la rue. Parce que dans la rue, pour arriver à réunir dans un seul endroit un harceleur, une femme victime et un policier tous présents en même temps au même endroit, ça va pas être si fréquent que ça. En revanche, sur les réseaux sociaux, il suffit de faire une capture d'écran pour avoir. Et là, je crois qu'il faut être à étendre la contravention au harcèlement sur les réseaux sociaux.
Avec la question de l'anonymat, malgré tout. Comment lever systématiquement l'anonymat ? Comment avoir l'adresse IP, cette adresse qui permet donc de repérer d'où vient le message ?
Alors, quand il s'agit d'apologie du terrorisme, on sait le faire. Voilà. Et on sait poursuivre et mettre... D'abord, il y a deux choses. Il y a d'abord mettre un terme au contenu, les faire retirer par les sites, et ensuite poursuivre les auteurs de ces contenus. Déjà, si on peut faire retirer les propos sexistes, homophobes, racistes, etc., des contenus, c'est déjà bien. Des sites, c'est déjà bien. Après, si on peut poursuivre les auteurs, c'est encore mieux. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est une espèce de laxisme. En fait, ma mémoire est bonne, YouTube est l'hébergeur qui est le plus vigilant sur ses contenus, qui fait une vraie politique de promotion de ses youtubeuses, qui les pousse, qui les protège et qui les met en avant. Sur Twitter, les régulations de contenu sont pas bonnes, les résultats sont en pourcentage très mauvais, et sur Facebook, c'est entre deux, mais avec enfin plus Facebook des choses compliquées, c'est que parfois ils retirent des contenus qui ne sont pas des contenus sexistes, mais qui sont des contenus simplement un peu érotiques. On se rappelle tous qu'ils avaient retiré l'origine du monde de Courbet, mais c'est pour autant des contenus sexistes. Donc la première chose, c'est de sanctionner ceux qui permettent que ces propos soient publiés dans leurs réseaux sociaux. Et la contravention, il faut pas la mettre à l'auteur des propos, il faut la mettre au site. Voilà, quand sur Twitter, on fait une capture d'écran de propos sexistes, d'incitation au viol, à la haine à l'égard des femmes, la contravention, elle doit tomber sur l'hébergeur. Mais les Allemands ont travaillé et ont proposé une loi avec des amendes qui vont, je crois, 50 000 euros à l'égard des sites qui ne régulent pas qui ne modère pas suffisamment les propos sexistes. Et il faut passer à la loi. Mais on a un petit problème.
Il va y avoir du travail, effectivement, puisque Twitter, même lorsque le signalement est fait, maintient certains contenus de ce type.
Mais absolument, Twitter maintient les contenus. En plus, c'est très compliqué, on ne sait pas à qui s'adresser. Bonjour, monsieur, allô, monsieur Twitter. Il n'est pas si facile à trouver, monsieur Twitter. Donc, on signale sur Twitter, et puis le temps de réaction. Mais ce que je voudrais dire, c'est que moi, dans la période précédente, j'ai fait voter une loi sur les sites anti-IVG, qui sur les réseaux sociaux donnent des informations qui sont erronées à des jeunes femmes qui cherchent des informations objectives sur l'IVG. Et cette loi que j'ai fait voter, qui est une extension du délit d'entrave à l'IVG sur les sites internet, était déjà une loi qui régule les contenus sur les réseaux sociaux. Alors c'est pas le cyberharcèlement, c'est d'un certain point de vue la manipulation et le mensonge à l'encontre des femmes. Donc on peut le faire. Mais ce que j'ai observé quand j'ai fait cette loi, c'est que tout le monde de l'internet, voilà, il existe un monde de l'internet, des start-upers, etc., etc., me disait OK, on est d'accord avec vous sur la nécessité de protéger l'information sur l'avortement. En revanche, la liberté d'expression est pour nous l'alpha et l'oméga de notre rapport aujourd'hui à la régulation sur les réseaux sociaux. Donc il va falloir aussi qu'il y ait une petite discussion qui se mène sur quelles sont les limites de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux, parce qu'au nom de la liberté d'expression, on laisse se développer l'incitation à la haine sexiste, homophobe, raciste, antisémite.
Mais alors c'est justement une question qu'on se pose souvent au sujet d'Internet, puisque Internet est imprégné par la culture anglo-saxonne, où la protection de la liberté d'expression, y compris de choses monstrueuses, est quelque chose qui est considéré comme devant être protégé. Est-ce qu'on a affaire à des entreprises cyniques, puisque ça existe aussi, on voit très bien qu'il y a bien souvent des hébergeurs qui permettent à un certain nombre de contenus de prospérer, ou en tout cas d'être là, ou est-ce que l'on a affaire à des gens qui n'ont pas la même conception que nous de la liberté d'expression, Laurence Rossignol ?
Non, je pense qu'on a affaire à des entreprises dont le but est de gagner de l'argent. Enfin, c'est le but d'une entreprise d'ailleurs, c'est de gagner de l'argent. J'ai un souvenir très précis. J'ai rencontré un des grands des fameux GAFA à propos des contenus sexistes sur leur site. Et ils m'ont expliqué qu'ils allaient proposer aux organisations féministes de faire de la modération bénévole sur leur site. Et là, je leur ai dit, mais vous plaisantez. C'est-à-dire que vous faites des profits qui se comptent en milliards de dollars, et il faudrait que nous, l'État français, nous subventionnions des associations féministes pour aller bénévolement faire la régulation sur vos sites. Je dis, mais faites-le payer des gens pour le faire, parce que c'est quand même, au fond de l'affaire, n'est pas très compliqué. Il suffit d'avoir des modérateurs qui sont des salariés de ces sites et qui sont vigilants et qui réagissent très vite. Moi, quand un site retire un contenu dans les 10 minutes ou le quart d'heure après que ça a été signalé, je ne vais pas instruire le procès en immoralité de ce site. En revanche, quand il ne se donne pas les moyens par cupidité, radinerie d'entreprise, là, je pense qu'il faut les sanctionner. Et c'est pour ça que je pense que la sanction financière à l'égard des sites qui laissent ces propos prospérer est, à mon sens, une nécessité. Mais tous les pays d'Europe se posent la même question, parce que les Anglais aussi, comme les Allemands, les Anglais, les Néerlandais, tout le monde se pose la même question. Comment on limite le cyberharcèlement ? Voilà, parce qu'on parlera peut-être tout à l'heure, il y a plusieurs formes de cyberharcèlement.
Voyez-vous les choses changer ? Est-ce que vous avez l'impression que la prise de conscience, depuis l'affaire Weinstein qui a servi de détonateur à cet égard, voyez-vous une chose entrer dans l'autre ? Voyez-vous des choses se modifier et une prise de conscience se faire ?
Oui, alors je vais remonter un tout petit peu en amont. Moi j'avais observé que les choses changeaient déjà un peu avant. En 2016, j'avais lancé une campagne qui s'appelait « Sexisme, pas notre genre » avec un badge pour que les antisexistes s'affichent. Et quand j'ai lancé cette campagne, ce que j'ai observé, c'est que c'était mûr pour une campagne sur le sexisme, ce qui n'était pas forcément le cas 10 ans auparavant. C'était mûr et on était en train de comprendre qu'à côté de l'égalité professionnelle, des droits des femmes, il y avait la question du sexisme, c'est-à-dire de l'ensemble de ce système qui pèse très lourdement sur les femmes et qui va des stéréotypes de genre à l'école jusqu'au mépris quotidien et où la surexploitation des femmes dans le monde du travail. Et que tout ça est un ensemble avec une forme de cohérence. Donc, quand l'affaire Weinstein est arrivée, elle est arrivée sur un terrain qui avait déjà été et aux États-Unis par les féministes américaines et aussi en Europe et particulièrement en Suède. C'est pas un hasard que le pays d'Europe dans lequel l'affaire Weinstein a provoqué le plus de réactions, c'est la Suède qui est le pays qui a fait du féminisme un axe des politiques publiques. Donc en France, l'affaire Weinstein a provoqué aussi une prise de conscience. J'observe quand même qu'en France, elle est plus modeste que dans d'autres pays.
C'est-à-dire ?
En fait, ce qui s'est passé en France, qui m'a un peu troublée, c'est que très vite, on a, aussi rapidement que la parole des femmes se libérait, tout le monde saluait la libération de la parole des femmes, mais tout de suite, le contre-feu s'est allumé, et ce contre-feu, ça s'est appelé « attention à la société de la délation ». C'est-à-dire que le message qui a été envoyé aux femmes, c'est « vous pouvez libérer votre parole ». Mais attention, on n'est pas dans une société de la délation, et nous, tout est judiciaire, et n'existe que ce qui a été pénalement condamné. Or, en matière de harcèlement sexiste, en matière de violence faite aux femmes, en matière de viol, ce que l'on sait, c'est que l'essentiel ne va pas devant les tribunaux.
On va continuer à en parler, Laurence Rossignol. On sera en compagnie en seconde partie de Nadia Dame, journaliste notamment pour Slate, chroniqueuse à Europe 1 et à l'émission 28 minutes sur Arte, qui a fait l'objet justement d'un cyberharcèlement. Elle nous racontera son expérience et puis elle nous dira plus généralement ce qu'elle pense de cette situation et de la lutte en faveur de l'égalité femmes-hommes, puisque c'est le thème de notre journée spéciale sur France Culture. Toute la journée dans vos émissions préférées, eh bien, vous retrouverez cette thématique. Sommes-nous entrés dans une nouvelle ère? Par exemple, la grande table d'Olivia Gesbert à midi recevra Isil Lebesco, la comédienne et réalisatrice, et le sociologue et philosophe Raphaël Laugier.